Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mutien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est l'oreille dans le coin.
Bonjour, c'est Yann. Aujourd'hui, seconde partie du reportage consacré à Carlos Marin. Il est à la fois enseignant, compositeur, arrangeur et guitariste de musique classique de renommée internationale. L'interview a été réalisée à son domicile à Saint-Yne. On a parlé, monsieur Marin, de vos talents de compositeur. Parlons désormais de vos talents d'enseignant. Vous avez œuvré dans de nombreux conservatoires de musique.
Alors, le premier, c'était dans l'Essonne. Dans l'Essonne, c'était à Quincy-sous-Sénart. Enfin, il y avait Quincy-sous-Sénart, je commençais les deux en même temps, et Boussy-Saint-Antoine. Avant ça, je sortais de l'École nationale de musique de Bobigny. À l'époque, on avait des médailles d'or. Attention, un prix de conservatoire, ça aurait été bien. Non, médaille d'or. J'ai jamais vu la couleur de la médaille. Et à Bobigny, j'ai eu donc un prix de guitare, de contrepoint, d'harmonie et de solfège. Et puis, je suis rentré dans la vie active assez vite. Et mon premier poste, et ça, je suis très content, j'étais l'animateur guitare de la maison de la culture, la petite maison de la culture, pas la grande maison de la culture, qu'ils ont construite après, de Bobigny. J'étais sur l'esplanade, à côté du métro Pablo Picasso. Ça a été vraiment mon premier poste. Alors, pauvres élèves, parce que, bon, à l'époque, c'était vraiment catastrophique, quoi. Je sais pas pourquoi ils venaient, quoi. J'ai rien appris. C'est eux qui m'ont appris à ce moment-là. C'est les élèves qui m'ont appris. Moi, j'ai essayé des choses comme ça, avec la guitare et avec eux, et ça marchait pas. Et c'est eux qui m'ont dit, non, ça marche, tu t'y prends mal. Ça, j'y arriverai jamais. Ah bon? Voilà. Donc, non, j'ai commencé par là. Après, j'ai enseigné à Quincy-sous-Sénart et à Boussy-Saint-Antoine. Ou alors, c'était simultanément. J'ai donné quelques leçons à Montgeron, dans l'Essonne, toujours. J'ai été directeur du conservatoire d'Épinay sous Sénart pendant un an, en 86-7. J'ai été professeur, non, c'était avant, juste avant, professeur de l'École nationale de musique de Montreuil pendant quelques années, pendant 2 ans et demi exactement. Ramon Cueto, qui était mon premier professeur, était très malade, donc on m'avait demandé de faire tous ses remplacements pendant 2 ans. Là, c'était très, très intéressant, beaucoup appris. Et puis, j'ai fait plein de ce qu'on appelle de vacations. Je n'exagère pas en disant presque tous les conservatoires de la petite couronne et de la grande couronne, y compris à Paris dans le 20e, dans le 19e. J'ai enseigné les guitares un peu partout. À un moment donné, il fallait travailler, donc il ne fallait pas regarder où on travaillait, si c'était loin, pas loin. Il fallait prendre le travail là où il était, quoi. Bon, et après, quand les choses se calment un peu, parce que finalement, vous stagiarisez, vous êtes titularisé, bon, les choses se calment un peu, vous n'êtes plus obligé de courir à gauche et à droite. Et ensuite, j'ai été le directeur de conservatoire de Neuilly-sur-Marne pendant 16 ans. Il y avait des arrangements, il fallait que je fasse des orchestrations à tour de bras toutes les semaines pour 2 orchestres. Donc, je prenais une œuvre, par exemple, écrite pour guitare ou pour piano, et il fallait que j'orchestre tout ça pour les orchestres maison. Donc, c'était vraiment un travail didactique complètement. Alors là, on parlait de pédagogie, là, on y est. Parce que si vos arrangements ne sont pas bons, personne ne les joue. Bien sûr. Si les élèves ne sont pas capables de jouer, ça ne marche pas. Alors, il y a des élèves, parfois, qui avaient du mal, par exemple, en clarinette, quand il fallait... Bon, les clarinettistes dans le bas, ça va. Au milieu, ça va pas trop mal. Mais dès que vous leur mettez des bémols ou dès qu'ils franchissent la cinquième ligne de la portée, il y a 2 solutions. Ou ils sont sérieux et doués, et ils travaillent beaucoup et ils y arrivent. Ou alors, ils sont malins et ils jouent pas. Voilà. Donc, si personne joue, c'est pas... Donc là, vous apprenez votre métier.
Bien sûr.
Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup appris. Puis, j'ai été très heureux de faire ça aussi. Parce que, finalement... ça m'a permis de mieux connaître le travail en profondeur. Le métier de pédagogue, c'est ça aussi. C'est la transmission, mais pas la transmission comme ça, à sens unique. Ça se fait dans les 2 sens. Il faut vraiment qu'il y ait un écho en face. Et j'ai beaucoup appris, beaucoup appris. Et puis, la satisfaction de voir 60 gamins jouer ensemble, de faire un disque aussi. On avait fait un disque en 2003. Ce n'est qu'un disque d'élèves. Oh, c'était très très sympa.
Vous avez également enseigné et vous enseignez également toujours à cet endroit, au Conservatoire de musique et de danse de Senlis.
Ah oui, Senlis, c'est arrivé un peu par hasard. En fait, on venait de s'installer dans la commune de Saint-Yne. Et puis, j'ai postulé parce que j'ai vu une annonce. Je cherchais un professeur de guitare pour quelques heures par semaine. Bon, très bien, moi j'aime enseigner, puis c'est pas très loin. Et ça a été vraiment très bien de cette rencontre avec Senlis. D'abord la ville, parce que je connaissais Senlis comme tout le monde de nom, mais je m'étais pas approché. C'est une ville musée ouverte. C'est hallucinant le nombre de choses qu'on peut apprendre, regarder, voir, découvrir, jusqu'à la fondation Zifra. C'est à côté. Et puis, j'ai eu la chance de travailler aussi dans une école soutenue par vraiment soutenue par la ville. Alors après, on est de droite, de gauche, c'est pas ça le problème. Madame Loiseleur et l'équipe municipale soutiennent vraiment, mais ça je le vois tout le temps, les actions culturelles. C'est pas uniquement au niveau du conservatoire. Puis vous savez, moi je vous dis ça, j'ai rien à gagner dans l'histoire. Moi, je veux dire, à 62 ans, je suis déjà à la retraite. Mais j'ai très rarement vu ça, une action municipale à ce point-là tournée vers la culture, vers les Senlisiens et pas que les Senlisiens, c'est-à-dire ceux qui habitent la ville à côté. Le conservatoire, il est très soutenu, mais pas uniquement financièrement, il est soutenu culturellement, c'est-à-dire il fait partie complètement du projet municipal. La culture, c'est le levain d'une société. Quand on a compris que la culture, ça permet aux gens d'être plus grands, d'être mieux, d'être plus heureux, et il n'y a pas que l'argent dans la vie, il n'y a pas que le bénéfice, il n'y a pas que le capital, il n'y a pas que la spéculation, il y a aussi... Tout l'effort doit être fait sur les jeunes. Et les jeunes qui vont au conservatoire, ils viennent en plus. Je veux dire, l'école est obligatoire, le conservatoire, il ne l'est pas. Donc, quand vous mettez le paquet sur la culture, que ce soit la musique ou la danse, ou le théâtre, vous aidez la société. En réalité, vous rendez service à la société. Vous avez moins de problèmes de délinquance. Les enfants aussi apprennent à vivre socialement avec les autres. Ils apprennent à se rencontrer, ils apprennent à échanger. Et puis, ils apprennent des choses irremplaçables, que sont la pratique de la musique. On ne pouvait pas remplacer la musique par quoi que ce soit, donc c'est essentiel, donc c'est irremplaçable. Donc Senlis est arrivé sur la fin. Senlis est arrivé en 2011 pour moi. Vraiment en bout de carrière d'enseignant. Et finalement, ça a été une vraie rencontre avec une ville, avec un conservatoire. Moi, je n'avais pas travaillé dans des conditions comme celle-là depuis très longtemps. C'est-à-dire des personnes compétentes et dévouées au service public. Parce que le service public, c'est ça. Il vous permet ça. Les cours sont accessibles financièrement, puisque c'est pris en charge par la collectivité. Et ils sont de qualité, parce que les professeurs, je ne parle pas de moi, aucun intérêt, mais les professeurs sont quand même choisis, triés sur le volet. Il y a une véritable ambiance de travail, dans la bonne humeur, une ambiance de confiance qui font que même la municipalité actuelle envisage, c'est même pas un projet, c'est concret, il va y avoir un nouveau conservatoire. Avec des investissements colossaux en personne, en numéraire, en architecte, etc. À Ordener.
Vous écoutez actuellement l'interview de Carlos Marin, un enseignant, compositeur, arrangeur et guitariste de musique classique. Dans votre carrière, Monsieur Marin, vous avez composé un certain nombre d'œuvres musicales. Pouvez-vous nous parler de vos différents enregistrements et CD parus?
Oui, alors il y en a eu quelques-uns qu'on ne trouve plus d'ailleurs, parce que c'est très particulier. Le premier que j'ai fait, c'était un disque sur les vihuelistes. C'est-à-dire, la vihuela, c'est un peu le grand-père de la guitare. La vihuela, c'est un instrument qu'on jouait à l'époque de Luis de Narváez, de Fuenllana, de compositeurs comme ça, de Luis Milán, le Sévillan. Voilà, on jouait début 15e jusqu'à milieu 17e. Ça n'a intéressé personne. Les seuls qui avaient ce disque-là, c'est ce qu'on appelait les discothèques. C'est-à-dire, c'est pas les endroits où on va danser, mais là où on pouvait écouter de la musique. Voilà, j'ai eu ça. Après, il y en a eu quelques-uns. J'ai travaillé un peu pour Barclay aussi. J'ai eu la chance de pouvoir faire ce que je voulais. Et si des fois je suis parti de certaines maisons, c'est parce que j'avais pas envie de le faire, quoi. La musique, alors je la place peut-être mal, mais je la plaçais pas là, en tout cas. J'ai jamais essayé de faire commerce de la musique.
Ouais, vous étiez en accord avec vous-même.
Oui, c'est compliqué ça. C'est compliqué parce qu'on vit dans un monde où on essaie de vous faire croire que tout se vend et tout s'achète. Alors il y a beaucoup de gens qui le croient. Non, non, ça se passe pas comme ça. Non, mais c'est plus difficile. J'ai vraiment de la chance parce que j'ai pu faire ce que je voulais. Au départ, la musique, elle est là pour célébrer le sacré. Bon, c'est sa fonction. Pour ça que la musique instrumentale est venue très tard en fait. Parce que ce dont avait peur l'Église, c'est qu'en mettant des instruments, ça devient un peu plus païen. Vous voyez, en gros, donc la musique, elle était vocale. Et elle était chantée par qui? Mais par des moniales. Et elle était, c'est une musique polyphonique, toujours sur des textes sacrés. Alors ça, c'est les débuts de la musique. Mais en peinture, c'est pareil, c'est la même histoire. Et avec la Renaissance, on sort de tout ça. Et c'est là que les arts, finalement, se développent. Mais tout était là. Il fallait simplement le feu vert de l'Église catholique pour qu'on puisse exprimer autre chose que l'idée de Dieu, etc. Mais donc, elle est là pour célébrer le sacré. Mais qu'est-ce qu'on appelle le sacré ? Ben, le sacré, c'est le vivant. Sans faire du Spinoza, Dieu, c'est tout ce que vous avez autour de vous. Ça, c'est pas du tout explicable. La musique, elle est là pour exprimer ça aussi. Alors, le vivant, c'est la joie, c'est la peine, c'est l'universel. L'art, il est là pour relier les gens. Il n'y a pas que la religion. L'art, c'est spirituel, autant que la religion ou les religions. Alors, que vient faire le commerce là-dedans ? C'est terrible. Terrible. Mais comme aujourd'hui, on fait de plus en plus d'argent avec n'importe quoi, au début, on faisait de l'argent parce qu'on échangeait un produit contre un autre. Mais la musique est devenue un produit. Et donc, les élèves, ce qu'on essaye, c'est d'ouvrir les esprits, d'ouvrir les oreilles sur les différences. En fait, être musicien, c'est cultiver les différences. Les différences artistiques, de style, d'époque, instrumentale, affiner les goûts, affiner aussi l'exigence, c'est-à-dire que pourquoi se contenter d'une mélodie avec deux notes quand on en a au moins sept ? Bon, si en plus on considère les altérations, les dièses, les bémols, vous démultipliez. Si en plus vous superposez deux notes, c'est là que les ennuis commencent. Mais c'est là que l'univers est expansible à l'infini. Et puis, la bonne musique n'a jamais fait de mal à personne. C'est-à-dire que j'ai jamais rencontré de musiciens qui soient des personnes mauvaises. J'ai l'impression que l'art, c'est une caresse de bonté aussi sur tout le monde. C'est-à-dire que quand on apprend à regarder la peinture, quand on apprend à lire la littérature, la poésie, les enfants, ils font ça très bien au début, hein. Les enfants, vous leur donnez un poème à lire, ils sont très contents. Prenez des poèmes, il n'y a pas que Paul Fort, mais vous prenez Paul Fort, par exemple. C'est tellement bien écrit que les enfants, ça les fait rêver. Bon, donc là, ça doit faire rêver. Ben moi, il y a des trucs, ça ne me fait pas rêver. Vous voyez ? Donc ça, je peux en parler, mais je ne peux pas enseigner ça, quoi. Donc moi, mon rôle, ça a été d'enseigner des choses en lesquelles je croyais. En étant professeur de musique, de guitare, ben, on fait passer aussi d'autres choses, quoi, d'autres idées. Pas de politique, bien sûr, pas de religion, c'est pas notre domaine. Mais on peut véhiculer des tas de valeurs humanistes, hein, c'est pas prétentieux ce que je dis, hein, en parlant, en défendant, en jouant, avec l'élève aussi. Mais la musique du 16e, du 15e, du 17e, quand c'est bien fait, quand ça a été bien fait, bien pensé, c'est de la musique. Mais c'est pas de la musique ancienne. On fait forcément de l'histoire avec les enfants. Parce qu'on parle de Charles Quint, on parle de la musique qu'on jouait à l'Escorial. Ensuite, on va parler de la musique élisabéthaine, la musique qu'on jouait à l'époque du règne d'Élisabeth la Grande, qu'on jouait à Londres. On est amené à parler un peu de littérature, c'est-à-dire qu'on est obligé de citer certains noms, au moins les grands. Shakespeare, Molière, Cervantes, on est obligé de les citer. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en enseignant un domaine avec sincérité, avec honnêteté, ben les enfants, ils demandent qu'à apprendre. C'est cet enseignement-là, moi, que je défends et que j'ai défendu. Moi, j'ai formé quelques personnes aujourd'hui qui enseignent l'instrument, qui ont laissé aimer un peu. Et je me rends compte que finalement, il faut plus de passeurs encore. Il n'y a pas assez de passeurs. Parce que plus il y aura de passeurs de jolies histoires, moins il y aura de problèmes. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une utopie. Il faut plus s'occuper des enfants. Vous voyez, la place de l'enseignement des arts dans l'éducation, elle n'est pas du tout à la hauteur. Vous vous rendez compte qu'à l'époque des Grecs anciens, je vous parle d'Aristote ou Socrate, la musique, c'était une des quatre disciplines. La musique, on enseignait la musique, comme on enseignait les mathématiques, on enseignait l'histoire, et puis le corps, la gymnastique. Pour faire une personne complète, il fallait s'occuper à la fois de ses pieds, de son cerveau, de son cœur. Enfin voilà, c'est ça. Et là, vous arrivez à former une personne équilibrée. Et aujourd'hui, il n'y a pas au niveau des responsables une prise de conscience réelle de l'importance de l'enseignement artistique. J'ai fait et je fais ce métier-là par conviction, vraiment. Je ne suis pas un curé, hein, mais je veux dire, il y a un peu de ça. Hein, c'est vraiment une vocation.
T'es prêcheur, ouais.
Ah oui, oui, je prêche sur ça.
Bah, monsieur Marin, merci pour ce long entretien.
Non,
et
merci
puis,
à vous.
Un dernier message pour nos auditeurs de Radio Valois-Mulsien qui vous ont écouté.
Portez-vous bien, puis faites attention.
La seconde partie du reportage consacrée à Carlos Marin, enseignant, compositeur, arrangeur et guitariste de musique classique de renommée internationale, est terminée. Au revoir.
« l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.